de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Bonsoir et bienvenue à tous. Comment allez-vous? Je suis très heureux de vous retrouver dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Vous êtes avec moi, Audrey. Chers amis, nous allons vous présenter un certain nombre de programmes comme le journal, les commentaires et d'autres infos comme l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, l'Indonésie en couleur et des chansons indonésiennes. Mon cher auditeur, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
RRI, la voix de l'Indonésie, avec le journal.
Chers auditeurs et auditeurs, voici la voix de l'Indonésie présente le journal aujourd'hui avec moi, Audrey. Il y a quelques événements à informer, entre autres. Russie ne peut confirmer la présence de Poutine au sommet du G20. Le gouvernement indonésien prépare le pire scénario pour la récession mondiale 2023. ICACEPA devient une priorité absolue pour le gouvernement du Canada. L'UUT affirme que le gouvernement utilisera des véhicules électriques l'année prochaine. Présidence indonésienne du G20 souligne l'urgence d'avoir des capitaux pour renforcer les BMD. Indonésie espère soulever les questions de sécurité énergétique au sommet de la CICA. Un potentiel d'investissement et de commerce entre l'Indonésie et le Canada est très important, a déclaré le ministre Erlangga. Bon, chers auditeurs, voici le nouvel en complet. L'ambassadrice de la Fédération de Russie en Indonésie, Ludmila Vorobieva, a déclaré que son parti n'avait pas été en mesure de confirmer la présence du président Vladimir Poutine au sommet du G20, qui se tiendra sur l'île de Bali en novembre. C'est ce qu'a déclaré l'ambassadrice Vorobieva lors d'une conférence de presse tenue à Jakarta mercredi. Elle a expliqué que la décision concernant la présence du président Poutine au sommet du G20 dépend de l'évolution de la situation géopolitique et de la sécurité. L'ambassadrice Vorobieva a également réitéré le soutien de la Russie à la présidence du G20. Elle a ajouté que la délégation russe avait participé à diverses réunions dans le cadre d'une série d'activités du G20 sous la présidence indonésienne. Le gouvernement indonésien lui-même a envoyé une invitation officielle au président Poutine et aux dirigeants des autres membres du G20 pour assister au sommet du G20. Le ministre coordinateur des Affaires maritimes et de l'investissement, Luhut Binsar Panjaitan, a déclaré que le gouvernement indonésien avait effectué un test de résistance pour identifier les risques et les mesures à prendre pour faire face à la menace d'une récession mondiale en 2023. À Jakarta, mercredi 12 octobre, Luhut Panjaitan a déclaré que l'Indonésie se préparait à affronter la tempête parfaite. Il a expliqué que des conditions de tempête parfaites pouvaient se produire dans n'importe quel pays du monde. L'Indonésie devait donc être prudente. Citant l'agence de presse Antara, Luth a déclaré que le gouvernement calculait et préparait actuellement les pires scénarios pour faire face à cette condition. Luth a également assuré que l'Indonésie est encore loin de la menace d'entrer dans l'abîme de la récession. La condition de tempête parfaite se produit en raison de trois problèmes simultanément, à savoir la menace d'une inflation élevée, incluant plusieurs pays développés, la récession à la fois technique et effective, et l'incertitude due aux conditions géopolitiques. La ministre canadienne du commerce international des petites entreprises et du développement économique, Mary Ng, a déclaré l'accord de partenariat économique global entre l'Indonésie et le Canada, ICACUPA, est une priorité absolue pour le gouvernement canadien. Cela a été transmis lors d'une réunion avec le ministre coordinateur pour affaires économiques Erlang Hartanto, avec le ministre de l'Industrie Agus Gumiwang Kartasasmita à Jakarta mercredi 12 octobre. Citant un communiqué de presse du ministère de coordination des affaires économiques de la République d'Indonésie, Mary Ng a déclaré la structure du partenariat économique global. L'accord permettra aux entreprises canadiennes d'investir, d'exporter et de faire des affaires en Indonésie plus facilement. La ministre Mary Ng a expliqué en formulant l'ICACUPA, le Canada sera plus flexible, mais espère également que l'accord est tourné vers l'avenir afin qu'il puisse maintenir une compétitivité élevée. Selon la ministre Mary, pour renforcer les partenariats stratégiques avec l'ASEAN, le Canada, il faut la vision du partenariat avec l'Indonésie est très importante en raison du rôle stratégique de l'Indonésie dans l'ASEAN. Le gouvernement canadien espère que l'Indonésie pourra devenir le point d'entrée du Canada dans l'ASEAN. Actuellement, les négociations ICACUPA se sont bien déroulées en deux ronds et devraient terminer rapidement. Le ministre indonésien du coordinateur des affaires maritimes et de l'investissement, Luhut Binsar Panjaitan, a souligné qu'en 2023, les ministères, agences et les gouvernements locaux doivent avoir préparé un budget pour l'achat de véhicules électriques pour les véhicules officiels. Luhut, dans le Bern Investor Daily 2022 à Jakarta mercredi, en disant « L'utilisation de véhicules électriques à batterie a été réalisée à l'heure actuelle. » Il a ajouté, mais comme l'exercice touche à sa fin, sa mise en œuvre complète sera effectuée l'année prochaine. Tel que rapporté par l'agence de presse Antara auparavant, le gouvernement indonésien a encouragé l'accélération de l'utilisation des véhicules électriques par le biais de l'instruction 9 présidentielle de la République d'Indonésie, INPRES numéro 7 de 2022. Le gouvernement indonésien encourage les agences gouvernementales centrales et locales à devenir des modèles pour l'utilisation des véhicules électriques comme les véhicules dans la région respective. La présidence indonésienne du G20 souligne l'importance d'un cadre d'adéquation des fonds propres pour accroître le rôle et la capacité de financement des diverses banques multilatérales de développement BMD. C'est ce qu'a déclaré la ministre indonésienne des Finances Sri Mulyani lors d'un discours clé lors de la conférence sur le renforcement du rôle et de la capacité des banques multilatérales de développement dans le financement du développement à Washington DC, États-Unis, mercredi 12 octobre. La ministre Sri Mulyani a déclaré que les actionnaires avaient envisagé la possibilité d'une adaptation au cadre actuel afin de maximiser la capacité de financement de la Banque multilatérale de développement, qui a été finalisée en juillet 2022 avec le soutien de la présidence indonésienne. Le ministre a souligné que diverses recommandations visant à renforcer le rôle de la Banque multilatérale de développement continueront d'être discutées au sein de la présidence du G20 afin qu'elles puissent être communiquées et adoptées immédiatement lors de la présidence indienne du G20 en 2023. L'ambassadeur d'Indonésie au Kazakhstan et au Tadjikistan, Fajrul Rahman, espère profiter de la conférence sur l'interaction et les mesures de confiance en Asie, CICA 2022, pour soulever la question de la sécurité énergétique dans les pays asiatiques, dont l'Indonésie. Selon Fajrul, cette question est importante pour la sécurité énergétique de l'Indonésie car, dit des 27 pays membres de la conférence sur l'interaction et les mesures de confiance en Asie sont de gros exportateurs de pétrole mondial en dehors de la région du Moyen-Orient. Fajrul de Wisma Indonesia à Astana au Kazakhstan a déclaré mercredi que la participation de l'Indonésie au sommet tenu à Astana les 12 et 13 octobre visait à encourager la coopération avec les pays membres de la conférence sur l'interaction et les mesures de confiance en Asie en matière d'économie, en particulier sécurité énergétique, à moyen et long terme. Il a déclaré que les efforts pour améliorer la sécurité énergétique sont un mandat du président Joko Widodo. La conférence sur l'interaction et les mesures de confiance en Asie est un forum qui promeut la paix, la sécurité et la prospérité dans la région. Le ministre indonésien du coordinateur de l'économie, Erlangga Tanto, a déclaré que le potentiel de coopération entre l'Indonésie et le Canada en termes d'investissement et de commerce est très important, mais n'a pas été pleinement réalisé. Le ministre Erlangga a fait cette déclaration lorsqu'il a rencontré la ministre canadienne du commerce international, de la promotion des exportations, des petites entreprises et du développement économique, Mary Ng, à Jakarta mercredi 12 octobre. Le ministre Erlangga a déclaré que le Canada a un marché ouvert. Il est donc possible que l'Indonésie entre sur le marché américain via le Canada. Entre-temps, la ministre Mary a déclaré que l'accord de partenariat économique global entre l'Indonésie et le Canada est une priorité absolue pour le gouvernement canadien. La structure de l'accord de partenariat permettra aux entreprises canadiennes d'investir, d'exporter et de faire des affaires en Indonésie plus facilement. Actuellement, les négociations sur l'accord de partenariat économique global entre l'Indonésie et le Canada durent depuis deux cycles et devraient être achevées dans peu de temps. Mary espère que l'Indonésie pourra devenir le point d'entrée du Canada vers l'ASEAN en raison du rôle stratégique de l'Indonésie dans la région de l'Asie du Sud-Est. Bon, chers auditeurs, c'est tout les nouvelles d'aujourd'hui.
Sedia berkobar. Ces héritages, bonsoir, voici l'accueil diplomatique ayant pour le titre « Enoshima Bali Sunset ramène la sensation de l'île des dieux au Japon ». Enoshima Bali Sunset a de nouveau eu lieu et a présenté la sensation de l'île des dieux de Bali sur l'île d'Enoshima Fujisawa au Japon les 9 et 10 octobre 2022 après avoir été reporté de 2 ans en raison de la pandémie de COVID-19. L'initiatrice Enoshima Bali Sunset, Ami Ashigawa, lors de sa rencontre à Fujisawa, lundi a déclaré que l'événement était le 15e organisé au Japon. Elle a déclaré que l'événement Enoshima Bali Sunset était débouté de son amour pour la culture balinaise. De plus, selon elle, la forme de l'île d'Enoshima et de l'île de Bali présente des similitudes lorsqu'elles sont vues d'en haut et ont le même contexte historique et la même, je veux dire, et la même légende. Ami espère qu'Enoshima Bali Sunset pourra participer au renforcement des relations entre l'Indonésie et le Japon. Pendant ce temps, l'ambassadeur de la République d'Indonésie au Japon et aux États fédérés de Micronésie, Heri Ahmadi, a apprécié la promotion de la culture indonésienne, d'autant plus que l'organisatrice est une citoyenne japonaise. Selon lui, l'ambassade d'Indonésie est impliquée depuis des années en collaboration avec Madame Ami Ashigawa, avec son groupe pour promouvoir l'Indonésie et le tourisme indonésien à travers Enoshima Bali Sunset. Heri espère que non seulement Bali, mais l'Indonésie dans son ensemble sera de plus en plus reconnue par le peuple japonais. Il a assuré le soutien de l'ambassade d'Indonésie à Tokyo aux activités de promotion de tourisme de l'Indonésie, à la fois menées par la diaspora indonésienne et les étrangers dans l'établissement de l'amitié avec l'Indonésie. L'événement consistait en des performances de danse balinaise, de gamelan, je veux dire de gamelan balinais, d'enclung et de promotion de batik à travers des défilés de mode et des tutoriels sur l'utilisation de batik. En outre, il existe également un certain nombre de points de vente vendant des spécialités indonésiennes allant des gerbes, du café, des chips et des souvenirs tels que des marionnettes, des porte-clés, des sacs, etc. Ces auditeurs, c'était l'accueil diplomatique pour ce soir.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo choku yo shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Waqaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi syaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión
usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Fork on the getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Chers auditeurs, pour la rubrique suivante, voici donc l'histoire d'aujourd'hui qui s'agit d'événements importants. Nous commençons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement du 13 octobre 1923, la Turquie déplace la capitale à Ankara. La capitale de la Turquie était à l'origine Constantinople, mieux connue aujourd'hui sous le nom d'Istanbul. Cependant, le 13 octobre 1923, la Turquie a brièvement déplacé sa capitale à Ankara. Mustafa Kemal Atatürk, fondateur de la République de Turquie, commence à diriger la relocalisation de la capitale. La raison pour laquelle la capitale turque a déménagé à cette époque, il y avait ce qu'on appelait la réforme d'Atatürk qui comprenait la relocalisation de la capitale. Atatürk a déplacé la capitale du pays car Istanbul est considéré comme ayant connu la décadence morale. Passons maintenant à l'événement du 13 octobre 1952, la naissance de Margaret Thatcher. Margaret Hilda Thatcher est une politicienne britannique et la première ministre du Royaume-Uni. Elle a occupé le poste le plus long de 1989 à 1990. En tant que première ministre, elle a mis en œuvre des politiques conservatrices. Après la démission de Thatcher en novembre 1990, elle est restée députée et a siégé sur la banquette arrière jusqu'en 1992. Elle est toujours une figure active dans le public britannique. Nous finissons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement du 13 octobre, la Journée internationale de la réduction des risques de catastrophe. La Journée internationale de la réduction des risques de catastrophe a été conçue par l'Assemblée générale des Nations Unies pour encourager les gens et les gouvernements à prendre part à la construction de communautés et de sociétés qui sont résistantes aux catastrophes naturelles. Au début, la Journée internationale pour la réduction des risques de catastrophes naturelles est célébrée chaque deuxième mercredi en octobre. Cette journée internationale fait partie de la proclamation de la décennie internationale de la réduction des catastrophes naturelles qui a débuté en 1990. En 2002, les Nations Unies ont décidé de maintenir les efforts de la réduction d'impact et de l'atténuation des catastrophes naturelles mondiales en créant la Journée internationale de commémoration célébrée chaque année. Enfin, en 2009, l'Assemblée générale des Nations Unies a officiellement fixé 13 octobre comme Journée internationale de la réduction des risques de catastrophes. Sajuritak, c'était l'histoire d'aujourd'hui pour ce soir.
Maaf telah sayang padamu, kau selalu buatku tak menentu.
perhatianmu yang buatku. Oh, ingin ku memilikimu meski kau telah dimilikinya. Bolehkah ku dekat denganmu? Izinkan ku
La Voix de l'Indonésie organise de nouveau le quiz international VOI 2022. 8 gagnants recevront des prix étrayants de chaque service linguistique. Préparez-vous, vous pourriez être l'un des gagnants du quiz international 2022 de La Voix de l'Indonésie. Chers amis, c'était la première chanson pop indonésienne pour ce soir. Qu'est-ce que vous en pensez? C'était belle la chanson? Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Et voici donc le programme Mon Indonésie. Bonne écoute.
Bonsoir, voici Mon Indonésie et on porte le titre. Le ministère de l'Industrie emmène 20 entreprises d'alimentation et de boissons au CIAL Paris 2022. Le ministère de l'Industrie fera participer 20 entreprises d'alimentation et de boissons au Salon international de l'alimentation CIAL de Paris 2022. CIAL Paris se tient au parc des expositions de Paris Nord Villepinte du 15 au 19 octobre 2022. Et est l'un des plus grands salons d'alimentation et des boissons au monde. C'était le communiqué de presse du ministère de l'Industrie publié dimanche le 9 octobre dernier. Dans le communiqué de presse, le ministre de l'Industrie, Agus Gumiwang Kartasasmita, a déclaré qu'au CIAL 2022, l'Indonésie construira un pavillon de descente de 2,5 mètres carrés situé dans le hall 8. Les installations qui seront obtenues par les exposants comprennent des kiosques, des laissez-passer d'exposants et des invitations électroniques pour les acheteurs potentiels. En plus des installations physiques sur le lieu de l'exposition, les exposants d'Indonésie bénéficient également d'un atelier de participation efficace au salon avant leur départ pour le Ciel Paris. Auguste Gumewang espère que les facilités obtenues par les participants pourront aider les exposants à attirer autant d'acheteurs potentiels étrangers que possible. Pendant ce temps, le directeur général de l'industrie agroalimentaire, Putu Juli Ardika, a déclaré qu'en plus d'introduire l'industrie agroalimentaire d'Indonésie sur le marché international, la participation de l'Indonésie au Ciel 2022 vise également à encourager la coopération et les accords entre entreprises afin d'augmenter l'exportation de l'industrie alimentaire et des boissons. Ardika espère que la collaboration établie inclura la technologie de la chaîne de froid et les ingrédients alimentaires, étant donné que les sources de matières premières pour l'industrie agroalimentaire indonésienne sont très diverses et fiables. Selon un communiqué de presse du ministère de l'Industrie, au deuxième trimestre de 2022, l'industrie indonésienne des aliments et des boissons a affiché une brillante performance en augmentant de 3,67% en glissement annuel et en contribuant au produit intérieur brut au PIB de l'industrie de transformation non pétrolière et gazière de 38,38%. De janvier à août 2022, les exportations d'industrie des aliments et des boissons ont atteint 31,7 milliards de dollars américains. Ces auditeurs, c'était mon Indonésie pour ce soir.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
Terasa selamanya akan
Chers auditeurs, c'était la deuxième chanson pop indonésienne. Vous aimez bien la chanson? Chers amis, vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voines.id. Chers auditeurs, maintenant nous allons présenter les magazines culturels. Bonne écoute!
Chers auditeurs, Ciamis est l'un des plus grands producteurs d'huile de palme de l'ouest de Java. Pas étonnant, il y a beaucoup de palmiers à huile dans cette région. Dans le passé, la population locale transformait uniquement l'huile de palme en huile, tandis que la lie était simplement jetée. Ce n'est que dans les années 1990 que les habitants de Ciamis ont transformé la lie d'huile restante en une collation typique de Ciamis appelée galindo. Galindo est une collation à base d'amidon de noix de coco qui précipite lors de la fabrication de l'huile de noix de coco. Cet amidon de coco précipité est ensuite compacté, puis il est coupé en morceaux et emballé pour la commercialisation. Le goût est savoureux et délicieux pour que beaucoup de gens aiment cette collation. Maintenant, Galindo est commercialisé dans différentes saveurs et emballages. Il existe des saveurs originales de galindo, à savoir galindo enveloppé dans du bambou tressé, saveur de fromage, saveur de banane, saveur de chocolat, saveur de sésame et bien d'autres. L'emballage est également unique. Certains se présentent sous forme de boîte ou de bocaux. Galindo est délicieux à déguster avec une tasse de thé chaud ou de café fort, surtout lorsqu'il est trempé dans du sucre blanc. Il se sent solide. Actuellement, Galindo est disponible autour de Ciamis. Ses prix varient également de 5000 rupiah à 30000 rupiah par paquet, selon la taille. Ce goûter convient aussi comme souvenir, car il peut durer plusieurs mois, environ 3 à 5 mois. C'est le talk, c'était le magazine culturel pour ce soir. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À demain.
Cinta untukmu yang takkan inspirasiku.
Lagu ini ku tulis untukmu dari dalam dasar hatiku sebagai tanda cinta untukmu yang takkan hilang dari hatiku. Lagu
Serge Littard, c'était la troisième chanson pop indonésienne. Et comment? Vous aimez bien la chanson? Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Pour la rubrique suivante, voici donc l'Indonésie en couleur. Bonne écoute.
Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, voici la rubrique l'Indonésie en couleur. Et cette fois, nous allons vous présenter l'actrice indonésienne Mika Tambayong a remporté le prix à l'échelle de l'Asie en Corée du Sud. Le personnage principal de la série originale Teluh Darah, Mika Tambayong, a remporté le prix à la chandelasie du magazine Marie Claire en Corée du Sud. Cité de la diffusion officielle, ce prix a été décerné au Busan International Festival Film 2022, le prix de l'Étoile Asiatique 2022 dans le cadre du Busan International Film Festival 2022, co-organisé par le magazine Marie Claire Korea, Busan International Film Festival 2002 et Chanel. Le prix de l'Étoile Asiatique sont organisés comme un événement pour ouvrir un espace, une appréciation et un soutien aux cinéastes nazis. Outre Mika Tambayong, l'acteur populaire sud-coréen Park Hae-soo a également reçu un prix dans la même catégorie. Tenu au Paradise Hotel Busan, cet événement a décerné des prix spéciaux à des cinéastes de premier plan tels que Choi Soo-young, Kim Yoo-jung, Mario Moret, Jung Hae-in, Park Hae-soo et Mika Tambayong. Mika était la seule actrice indonésienne à avoir assisté à cet événement spécial et a remporté le prix à l'échelle de l'Asie qui est décerné aux acteurs et actrices pour leur réalisation dans le développement de leur travail sur la scène internationale. Après avoir été sélectionné comme voix de la version indonésienne de l'un des films préférés des studios d'animation Walt Disney, Raya et le dernier dragon, le Disney, Mika Tambayong vient maintenant avec sa première série d'horreur, Teluh Darah, qui a tenu une première mondiale au Busan International Film Festival 2022 et devenu la seule série d'Asie du Sud-Est sélectionnée pour être diffusée dans le programme à l'écran. Peluh Darah produksi par Rapi Film pur Disney Plus Hotstar itu seri dua realisator kondu pur se film e seri de thriller e d'horreur ikonik Kimo Stambul. Cette série de genre de thriller raconte l'histoire de Wulan et Esa, deux personnes modernes de familles différentes, dont la vie change après avoir vu leur famille être la cible d'une attaque de magie noire. Avec un fort désir de protéger leur famille bien aimée, les deux sont déterminés à trouver le coupable derrière l'attaque pour les tenir responsables des événements mystiques qui ont frappé leur famille. Chers amis, c'était la rubrique L'Indonésie en couleur de la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Chers amis, c'était la chanson pop indonésienne. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Sans retard, nous continuons notre programme avec le magazine Musica. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous, maintenant c'est le temps pour le magazine musical. Et cette fois, nous vous présentons une chanson de Kenan Nasution. Ce chanteur, ce chanteur originaire d'Indonésie, s'est fait connaître depuis qu'il a fondé le groupe Sabda Nada en 1966, avec ses frères et collègues. Bien qu'au cours de sa carrière dans le monde de la musique indonésienne, Kenan soit devenu membre de plusieurs groupes, il a finalement opté pour une carrière solo. Il sort son premier album intitulé « Di Batas Angan Angan » en 1978. L'un de ses tubes s'intitule « Nuansa Bening ». Jusqu'à présent, la chanson est toujours agréable à entendre. D'autant plus que le jeune musicien Vidya Liano a repris « Nuansa Bening » avec une version moderne en 2008. Bon, chers auditeurs, voici Kenan Nasution va chanter une chanson intitulée « Nuansa Bening ». Bonne écoute.
Sona ketika kau lewat di hadapanku, biasa saja. Waktu pertalian terjalin sudah, ada yang menarik pancaran diri terus mengganggu. Mendengar cerita sehari-hari yang wajar tapi tetap mengasyikkan. Tiada kejutan pesona diri pertama ku jabat jemari tanganmu, biasa saja. Sudah ada yang menarik bayang-bayangmu, tak mau pergi. Dirimu nuansa, nuansa ilham, hamparan laut tiada bertepi. Tapi
La Voix de l'Indonésie organise de nouveau le quiz international VOI 2022. 8 gagnants recevront des prix étrillants de chaque service linguistique. Préparez-vous, vous pourriez être l'un des gagnants du quiz international 2022 de La Voix de l'Indonésie. Chers auditeurs, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz. Et n'oubliez pas de nous écrire votre suggestion et critique à notre adresse de courriel voi@voinews.id. Vous pouvez suivre notre compte de Twitter, @voiceindonesia, d'Instagram, @voice.of.indonesia. Joignez notre Facebook de Voice of Indonesia. Regardez-nous sur notre YouTube, Voice Indonesia. Et pour l'information plus détaillée, vous pouvez visiter notre site web www.voinews.id. On se rencontre demain, même heure et même fréquence. À bientôt.